Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté. Je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast dont l'objectif est simple, vous donner envie de visionner ou revisionner une œuvre du 7e art. Et pour remplir cette mission, je reçois une personne qui vient nous raconter comment un film l'a marqué au point d'avoir eu un impact sur sa vie pour tout un tas de raisons, parce que ce long métrage fait écho à des moments clés de la vie de quelqu'un, parce qu'il a contribué à pousser mon invité vers un choix professionnel insoupçonné, ou encore parce que ce film a pu aider en termes de développement personnel. Petit rappel important, si vous avez envie de soutenir l'émission et de la faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Comme à chaque fois, à la fin de l'émission, je lirai avec plaisir les commentaires laissés sur ces applications afin de vous remercier directement. Aujourd'hui, 21e épisode dans lequel vous allez faire la connaissance de l'animatrice du podcast Allo Central. Elle s'appelle Morgane et sa rencontre avec le film Chucky, la poupée de sang, alors qu'elle n'avait pas encore l'âge de 7 ans, fut une vraie déflagration, un choc, source de cauchemar qu'elle a forcément eu du mal à digérer. Seul le temps lui a permis petit à petit de se plonger dans le cinéma de genre à tel point qu'à 31 ans aujourd'hui, Chucky, la poupée ennemie, est devenue désormais son amie. Avec Morgane, on a parlé de Andy, du rire de Chucky, du mode opératoire de la poupée, de vaudou, de slasher, de méchanceté gratuite, du magasin de jouets, de binge-watching, de films d'horreur et de bromance. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec la web designer de métier juste après cet extrait de Chucky 2.
Surprise! J'espère que je t'ai manqué, parce que toi, tu m'as beaucoup manqué. Je t'avais bien dit qu'on serait amis pour la vie. Et d'autant plus que maintenant, c'est l'heure de faire chouchou. J'ai un nouveau jeu à t'apprendre. Ça s'appelle le cache-cache de l'âme. Et devine, c'est toi qui décolle. Adédoui d'Ambala. Donne-moi le pouvoir, je t'en suis. Je n'en ai pas fini avec toi. J'ai pas envie de passer ma vie dans cette saloperie de jouets. Dès que tu seras seul, je te ferai ta fête.
Bonjour Morgane.
Bonjour Junior.
Sois la bienvenue dans le film qui a changé ma vie. Et merci beaucoup d'avoir accepté de mon invitation. Avec toi, on va parler du film Chucky 2, Chucky la poupée de sang, qui est disponible sur Netflix d'ailleurs. Mais avant que tu nous racontes ton histoire si particulière avec ce film, est-ce que tu peux nous faire un pitch s'il te plaît Morgane ?
Alors, le pitch du 2 ou le pitch de Chucky en général, parce que du coup, les deux sont liés. Hein.
Ah, alors ça dépend. Si peut-être pour recontextualiser ceux qui n'ont jamais vu Chucky, oui, en effet, peut-être partir du 1 jusqu'à rejoindre le 2, oui.
Chucky, donc, c'est la réincarnation, en fait, en poupée, d'un mec qui s'appelle Charles Lee Ray, qui est donc un tueur en série, qui a la particularité de maîtriser les arts vaudous. Et en fait, dans le tout premier film, ce tueur en série est poursuivi par la police et il se fait tiré dessus dès la scène d'introduction et dans un réflexe ultime de survie, il se réfugie dans un magasin de jouets et décide de pratiquer justement son art vaudou pour réincarner son âme dans le premier truc qui lui vient sous la main et c'est une poupée brave gars, le jouet supra en vogue parmi les petits enfants des années 80 du moment. Et en fait, on va suivre les déboires d'une maman qui veut absolument faire plaisir à son fils et lui offre cette poupée tombée du camion pour son 6e anniversaire. Et donc, en fait, pendant tout le premier film, Chucky va essayer de se retrouver un moment isolé avec le petit Andy pour pouvoir réincarner son âme dans son corps, puisque s'il ne le fait pas rapidement, en fait, son âme va se greffer au corps de la poupée. Et il faut absolument qu'il le fasse avec Andy, puisque c'est la première personne à qui il a révélé son secret. Voilà, donc ça c'est le pitch du premier film, et évidemment après je passe les détails parce que c'est un film qui est super, et c'est bien de le découvrir avec tous ces moments de suspense intense, parce qu'il n'y a rien de plus flippant qu'une poupée qui bouge.
C'est clair, qui prend vie, et c'est intéressant, merci pour ce rappel, parce que je me demandais pourquoi ça tournait, je me souvenais plus du pourquoi ça tournait à l'obsession, le fait que Chucky veuille que son âme habite le corps de Andy.
Ouais, c'est là un peu la particularité, c'est que vraiment... Alors après, je pense qu'ils ont fait quelques dérogations dans les 8 autres films.
Oui, on va y revenir, oui.
Mais la base, c'est ça, c'est vraiment la première personne à qui il révèle son secret. Il faut que ce soit la personne en qui il va réincarner son âme. Et c'est pour ça que ce pauvre petit garçon qui est parfaitement innocent dans ce premier film, en fait, est poursuivi par cet horrible personnage.
Et ça se poursuit dans le 2, puisque Andy donc atterrit dans une autre famille d'accueil, mais la poursuite continue de la part de Chucky.
C'est ça, parce que le deuxième film, ça se passe quelques semaines après en fait les événements du premier, et malheureusement, personne n'a cru la maman de cette histoire de tueur en série réincarné dans une poupée, bizarrement. Et elle a été placée dans un hôpital psychiatrique. Le petit garçon, il a été mis, comme tu le dis, en famille d'accueil. Et en fait, lui, il est complètement traumatisé, il est devenu méfiant, il a perdu toute innocence. Et en fait, Chucky va revenir dans des circonstances qui, du coup, ont créé justement toute l'histoire que j'ai avec ce film, avec les 20 premières minutes du film.
On va y revenir sur la perte d'innocence, vous allez halluciner sur l'histoire de Morgane. Le film est sorti en salle en France le 16 janvier 1991. Chucky, la poupée de sang, est réalisé par John Lafia. Alors au casting, il n'y a pas de grands noms, hein. Je vais vous les citer, mais ça ne va pas vous parler. Alex Vincent, Jenny Agutter, Gerrit Graham, Christine Elise. On peut citer Greg German, c'est peut-être le plus connu parce qu'il a joué dans Ally McBeal, il jouait Richard Fish. Et il a joué plus récemment, et je crois qu'il joue toujours d'ailleurs, dans la série Grey's Anatomy, où c'est le docteur Thomas Korasik. Sinon, la voix de Chucky, là c'est Morgane qui va me sauver la mise, c'est celle, c'est celle de...
Brad Dourif, qui est le plus horrible personnage du cinéma, mais qu'on affectionne tout particulièrement parce qu'il a une voix très particulière et il aime bien jouer les sales personnages. Comme on en parlait un petit peu en off, il a joué notamment dans Le Seigneur des Anneaux, notamment il fait le personnage de Grima Langue de Serpent, ou même dans Alien 4, j'ai oublié le nom de son personnage, mais il fait le nom d'un scientifique absolument fasciné par les xénomorphes. Bref, ça tourne mal.
Ah ouais, plus démoniaque le personnage est, et mieux c'est, plus il a envie de l'incarner, j'ai l'impression.
Mais c'est ça, et d'ailleurs c'est une histoire de famille, puisque maintenant même sa fille joue dans les derniers films.
Ok, très bien, on va y revenir, hein, parce que c'est une saga Chucky, donc 8 films. Une question toute simple, traditionnelle, hein, vous en avez l'habitude maintenant pour les auditrices et auditeurs les plus fidèles. Morgane, la découverte de Chucky 2, parce que ça n'a pas commencé par le premier, ça s'est passé à quel âge, on est en quelle année et dans quelles conditions?
Alors, techniquement, de mémoire, je crois qu'on est entre 96-97, donc je dois avoir 5 ou 6 ans à peu près. Et moi, j'étais tranquille dans le salon, hein, je chillais comme un enfant des années 90. Et en fait, mon frangin devait être chez mes voisins à l'époque pour regarder des cassettes normales. Et mes voisins étaient les jumeaux, hein, coucou Anthony et Vincent, qui devaient être adolescents. Eux, donc ils regardaient toutes sortes de films chez eux. Et sauf que là, ce jour-là, ils débarquent à la maison, tous les trois, en disant « Bon, Morgane, maintenant tu nous laisses le salon parce qu'on va regarder un truc qui n'est pas pour toi. » Évidemment, moi et ma fierté d'enfant de 5 ou 6 ans, je dis « Non, je suis une grande fille, je vais rester. » Sauf que la cassette qu'ils avaient ramenée ce jour-là, donc évidemment, c'était Chucky, la poupée de sang. Bon, ils insistent pas trop parce que je devais être assez, tenace. Le film se lance. Là, on va avoir toute l'introduction sur la vie un peu cradingue, un peu industrielle, qui est assez contrastée avec les plans où, par contre, on va voir l'usine de jouets avec des couleurs hyper criardes. Et clairement, moi, à l'époque, justement, les couleurs criardes de l'usine de jouets, ça va me rassurer, je ne sais pas du tout.
Ça te fascine.
C'est ça, je ne sais pas du tout ce qui va m'attendre. Et il commence à y avoir quand même quelques plans un peu flippants, justement, avec des gros plans sur cette espèce de corps de poupée qui est calciné, qui est un peu dégueu, qu'on va racler, qu'on va presque autopsier. Mais je n'ai pas vu le premier film, je ne sais pas de quoi on parle, je sais juste que ça parle d'une poupée. Donc moi, forcément, je suis une petite fille des années 90, j'en ai des poupées. Je pars du principe que je ne vais pas avoir peur. Et donc, il va y avoir toute cette mise en scène où en fait, on sent qu'ils vont vraiment remettre la poupée à neuf. Ils vont lui enlever vraiment tout ce qui a été brûlé, tout ce qui a été abîmé et cassé.
Magnifique intro.
Ouais, l'intro est hyper, vraiment hyper bien et c'est très très malaisant.
Oui, exact, c'est très malaisant parce que en fait on nettoie le corps calciné de la poupée et on la remet à neuf. Elle a été démembrée, on la remembre.
Bah c'est ça, on va lui remettre des bras, des jambes, on va lui refaire la petite peinture de ses sourcils. Et là on en arrive en fait déjà à la première partie où là je me suis dit il y a un truc qui déconne, enfin ça va pas du tout ce qui se passe. C'est le moment où en fait il y a le patron qui arrive dans l'usine. Il y a un dialogue qui globalement va résumer le premier film avec justement, bon, on dit que la mère elle est en hôpital psychiatrique, le petit garçon est en famille d'écueil. Bref, ils sont en train d'autopsier justement la poupée pour voir si les dires de la maman étaient vrais. Ils se rendent compte que bah non, c'était juste une poupée, le corps est inerte, c'est pour ça qu'ils le remettent à neuf. Et au moment où le patron donc arrive avec les ouvriers qui sont en train de le refabriquer à la main, il y a l'insertion des globes oculaires.
Oui.
Et ce passage-là, donc déjà, c'est une machine qui est très, très effrayante avec donc ces globes oculaires qui sont juste au-dessus de la poupée, qui vont être insérés d'un seul coup. Enfin, moi, je trouve que c'est un geste qui est hyper agressif de base, qu'on retrouve d'ailleurs, ils se sont fait plaisir un peu plus tard dans le film.
Ouais, scène finale dans l'usine.
Exactement. Et en fait, au moment où ils doivent le faire, la machine ne fonctionne pas. Et l'ouvrier se fait électrocuter et c'est par cet acte d'électrocution, comme par magie ou par vaudou, la vie est retransmise dans le corps de Chucky et il va reprendre vie. Mais ça, si on ne connaît pas le film, on ne sait pas encore.
Oui, on ne sait pas les conséquences en effet de cette électrocution. Et tu étais toute jeune, tu avais 6 ans, c'est, bon, 5-6 ans, je trouve ça quand même très... violent. On comprend tout ce qui se passe ou dans quel état tu étais quand tu voyais ces images? Est-ce que tu as caché tes yeux? Est-ce que au bout d'un moment tu as détourné le regard? Est-ce que tu étais absorbé par les images?
Bah en fait j'étais absorbé par l'image parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé à l'écran. Parce que bon, le gars il est électrocuté, il est projeté de manière spectaculaire sur une vitre. Donc en vrai, sur le moment, je ne sais pas le mec est possiblement mort. Donc, mais je suis choquée de ce qui se passe, mais moins choquée de ce qui se passe ensuite, parce que j'ai vu 20 minutes du film.
Wow. Oui.
Et après cette scène-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le patron, il n'est pas content. Il va raconter à son commercial, ok, faut surtout pas que cette histoire s'ébruite, parce que ça va alimenter encore la rumeur autour de cette poupée, sachant que c'est vraiment le jouet. Faut pas entacher la réputation du produit. Il va dire à son commercial, grosso modo, comme si c'était un cadavre, de s'en débarrasser, quoi. Donc le commercial, il va prendre la poupée, il va essayer de la mettre dans son coffre. Et là, même enfant, je me rappelle avoir cette impression de « ça va pas du tout ». Le gars, il force comme un malade pour le faire rentrer dans le coffre. Et je me dis « mais c'est pas bien ce qui se passe, il faut pas faire ça, monsieur ».
Il fait du mal à la poupée, une réaction enfantine, hein.
Bah c'est ça, et en fait dans le coffre, bah évidemment c'est plein d'autres jouets, donc ça rentre pas. Donc le mec il va jeter le corps de la poupée nonchalamment sur la banquette arrière, il part acheter de l'alcool, il a un date, donc c'est pour ça qu'il va acheter de l'alcool. Et c'est au moment en fait où il revient dans la voiture, que là ça y est, la poupée bouge, et non seulement la poupée bouge, mais en plus elle parle mal parce qu'elle est extrêmement vulgaire.
Ah oui, on va y revenir sur cet aspect là, c'est très cru.
Ah non, c'est hyper cru. Et là, en plus, il va braquer le gars avec un flingue. Alors, c'est un faux flingue, ça, je le constate bien. Mais l'acte est quand même hyper violent. Il va lui attacher les mains avec une corde à sauter. Et au moment où le gars pense que c'est une mauvaise blague et qu'il va s'en tirer, il l'étouffe avec un sac plastique.
Et tu assistes à ça, à même pas
8 ans. Et j'assiste à ça. Non, à même pas 8 ans. Et c'est surtout à ce moment-là où ma mère débarque dans le salon et elle dit... arrêtez tout, ça va pas du tout ce qui se passe, parce que ma mère déjà comprend en quelques secondes que ce qui est en train d'être visionné n'est pas pour les enfants. Et en plus de ça, elle déteste les films d'horreur parce qu'elle déteste avoir peur. Donc là, elle comprend en quelques secondes que ça va pas du tout et il faut arrêter ça.
Arrêter le massacre, je tiens à préciser. Je ne sais pas pourquoi Netflix a mis cette classification 18+, faut peut-être pas exagérer, mais sachez que le film est interdit au moins de 12 ans, c'était le cas à l'époque, en DVD, et c'est bien reprécisé sur tous les sites de cinéma de référence comme Allociné, c'est interdit au moins de 12 ans, donc ne faites pas comme Morgane, hein, ne l'imposez pas à quelqu'un en dessous de 10 ans, non, en dessous de 10 ou 8 ans, non, évitez.
Mets tes mains derrière le siège.
Quoi ?
Fais ce que je te dis !
Inutile de vous exciter. S'il vous plaît, ne tirez pas. Écoutez, je n'ai pas de liquide. Je n'ai absolument qu'une carte de crédit. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Dites-moi ce que vous...
Arrête de gigoter, connard.
Pitié. Prenez ma voiture. Vous n'avez qu'à me laisser ici si vous voulez, mais ne me faites pas de mal. Je vous en supplie.
C'est mort.
Est-ce que quand on est enfant, on en fait des cauchemars et on a un rapport vis-à-vis des poupées qui peut-être change, ou est-ce que finalement c'est resté le même ?
C'est intéressant comme question, parce que c'est exactement ce qui s'est passé chez moi. C'est-à-dire que ma mère, ne sachant pas exactement ce que j'avais vu, elle n'a pas revisionné le début de la cassette pour vérifier que j'étais traumatisée. En fait, on n'en a pas reparlé. Elle a juste arrêté le visionnage pour éviter que je voie d'autres choses, même pour mon frangin, même si mon frangin, lui, il était complètement insensible, alors qu'il a que 2 ans de plus que moi, hein, mais bon, il y a des petites natures et il y en a d'autres qui le sont moins. Et en fait, bah ouais, moi j'en faisais des cauchemars, et j'en faisais même en journée, les premières semaines, je regardais derrière les portes, je regardais sous le lit, et je regardais partout, et j'avais quelques poupées, poupons. Je m'excusais auprès de ces poupées, et je leur brossais les cheveux, je les entretenais, etc. Parce que j'étais persuadée que ça allait se retourner contre moi si je m'en occupais mal. Et par contre, la nuit, je les mettais dans le placard et je fermais à clé, au cas où.
C'est fou, c'était ça tes peurs avant même de regarder Chucky. Est-ce que tu avais peur de la Dame Blanche, du noir, ou juste c'est vraiment le visionnage de Chucky qui a amplifié des peurs d'enfant, finalement?
C'est vraiment le film qui a amplifié des peurs d'enfant, parce qu'il y avait des trucs... Bon, quand on est petit, on a peur. Oui, on peut peut-être avoir un peu peur du noir, etc. Mais sauf qu'en fait, là, après le film, j'entendais des bruits la nuit. C'était l'époque, la grande époque de la moquette dans les chambres. Oui. Et j'avais vraiment la sensation d'entendre des petits pas autour de mon lit. Mais vraiment, j'avais la sensation d'avoir des hallucinations auditives, et j'amplifiais tout ce que j'entendais. Genre, chez mes parents, il y a un escalier en bois. Comme dans toutes les maisons, on reconnaît les bruits de la maison et on sait qui est dans la maison à quel moment. Et en fait, dans cet escalier, je me rappelle d'une nuit où j'entendais quelqu'un qui montait très lentement. La vraie raison, c'est juste le bois qui se replace. Hein.
Oui.
Après, parce que toute la journée, on a marché dessus. Donc forcément, la nuit, en fait, bah, les marches vont se replacer toutes seules. Et donc, ça fait un bruit, mais un bruit discret et très lent. Mais quand on est petit et qu'on a peur, j'étais vraiment persuadée qu'il y avait quelqu'un dans l'escalier qui était suffisamment petit pour être discret.
Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il portait une salopette à tout hasard?
Non, mais en vrai, franchement, j'avais attrapé... ce que je pensais être quelque chose de menaçant, genre ma lampe de bureau. Et j'étais allée voir dans la cage d'escalier pour vérifier. J'avais allumé la lumière et tout. Je m'étais dit, je vais me faire engueuler, mais tant pis. Mais ça aurait pu. Je m'attendais à voir ce truc, hein, avec sa petite salopette et ses mignonnes petites chaussures.
Oui. C'est quand même assez flippant ce que tu nous racontes. Et finalement, ouais, tu te comportais comme un Andy. Andy a peut-être aussi déteint sur toi dans ces mécanismes de défense-là à adopter.
Bah, ce qui est marrant, c'est que finalement, moi, dans le visionnage que j'en ai fait à l'époque, j'ai pas eu le temps de voir Andy, parce que dans les 20 premières minutes, en fait, on voit pas du tout ce gamin, et c'est vrai que, naturellement, en fait, un enfant va se défendre.
Oui.
Le réflexe par rapport à la peur, c'est d'essayer d'y faire face. Après, ça, peut-être que ça dépend aussi des comportements et de ce qu'on vit aussi, mais en l'occurrence, par rapport à cette chose que je considérais comme menaçante, parce qu'aussi, ça faisait à peu près ma taille. Bah, du coup, le réflexe, c'est d'essayer de se défendre, parce que c'est... Et puis, c'était irrationnel, en fait.
Oui, c'était, bien sûr, c'était surreprésenté dans ton esprit. Hein.
Tout à fait.
Du coup, il y a ce traumatisme, entre guillemets, hein, mais que, quelque part, j'espère, tu as su dominer et surmonter. Le film, que ce soit Chucky 2 ou la saga, est revenu dans ta vie vers quel âge ?
Alors, c'est vrai que jusqu'à l'adolescence, on va dire, j'en faisais encore des cauchemars, hein, vraiment, c'est-à-dire que de manière intermittente. Et ça m'avait aussi fait peur de regarder des films d'horreur. Rien que le fait d'envisager de regarder un film d'horreur me foutait la trouille par avance, parce que, genre par exemple, Alien, je voulais pas le regarder, parce que du coup, tout le monde disait que c'était horrible, etc. Et moi, j'avais vraiment la sensation que j'allais voir un Chucky bis, Chucky 2 bis. Et c'est vraiment à l'adolescence où, là par contre, on a eu cette délicate période où les gens uploadaient les films sur Dailymotion en 14 parties.
Ouais, on est dans les années 2000 puisque tu étais adolescente.
Ouais.
Et oui, on mettait des séries, genre je me souviens des Frères Scott, des Newport Beach, découpées en plusieurs parties, et des films également improbables, ouais, dans une qualité plus que douteuse, avec une surveillance qui était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout est tracé pour des histoires de droit.
Ouais, c'est ça. En fait, j'avais commencé à regarder au départ des films fantastiques que j'avais pas l'occasion de voir autrement que en allant au vidéoclub, puisque c'était encore existant à l'époque. Mais sauf que bon, mes parents étaient super gentils, hein. Ils nous laissaient louer régulièrement des films, mais les trucs d'horreur. Non, ils nous auraient pas laissé parce que ça leur semblait pas adapté, même si on était ados. Et en fait, je suis tombée sur une chaîne qui uploadait donc d'abord des films fantastiques, et puis après, par connexion, en fait, ça m'a envoyé sur des films de Stephen King, et après, ça m'a emmenée vers des plus grosses sagas de films d'horreur, et j'ai vu qu'il y avait Chucky qui était en 14 parties sur Dailymotion, et je me suis dit, bon, Morgan, c'est le moment. Il va falloir s'y mettre parce qu'il faut passer au-delà, t'es plus un enfant. Et en fait, j'ai proposé à mon petit frère, qui était un peu plus jeune, mais qui était beaucoup moins impressionnable que moi, de regarder avec moi. Parce qu'à l'époque, il y avait 4 films de sortie, 4 ou 5 films de sortie.
Ah, quand même,
hein. Ça allait, je crois que je sais plus si ça allait jusqu'à la fiancée de Chucky ou le fils de Chucky. Mais c'était autour de 2006, 2007. Donc,
tu avais quel âge ?
Peut-être 2006. Bah là, je devais avoir 15 ans. Ouais, à peu près. Du coup, ça me semblait un âge approprié pour passer au-delà.
Oui, là, tu pouvais te lancer.
Bah, c'est ça. Et là, en fait, on a regardé tous les films qui étaient dispo de la saga, en fait, en plusieurs parties. Et déjà, le fait de le regarder en plusieurs parties, c'est complètement détraumatisant, hein, déjà, parce que ça coupe complètement le rythme. Et c'est surtout qu'on s'est rendu compte que le personnage de Chucky, au-delà d'être un horrible personnage, était un personnage avec aussi beaucoup d'humour, un humour extrêmement noir, mais c'est une saga, et c'est aussi pour ça que je l'apprécie, c'est une saga qui est drôle,
oui,
d'une certaine manière. Il faut mettre des guillemets dans ce que je dis, évidemment. Mais c'est un humour de film d'horreur.
C'est ça. On est dans quelque chose du décomplexé, j'ai envie de dire. Chucky s'en bat les reins, on pourrait dire même s'en bat la race, mais beaucoup plus grossièrement encore, comme lui le dirait, à base de doigts d'honneur. Mais d'ailleurs, on n'a pas finalement... décrit Chucky. Là, tu es grande en plus, donc tu peux commencer à mettre des mots un peu sur son caractère. Pour quelqu'un qui n'a jamais regardé la saga, comment on pourrait le décrire, Chucky ?
Bah déjà, c'est quelqu'un qui a un problème, hein, puisque c'est un tueur en série. C'est quelqu'un qui n'est franchement pas recommandable. C'est quelqu'un d'assez, cupide, qui est à la recherche, à la base, on en apprend un peu plus sur lui au fur et à mesure de la saga, bah, d'argent, de sexe, parce que évidemment, c'est le genre de personnage qui trouve toujours chaussures à son pied, même en amour.
C'est improbable pour une poupée, mais oui.
C'est ça, et il est un peu pervers, il va faire des commentaires très grossiers sur les femmes, parce que c'est un personnage hétérosexuel pur et dur.
Ah oui, il était écrit comme ça, ça c'est clair.
C'est le mec qu'on n'a pas envie de croiser en soirée, au-delà du fait que c'est un tueur en série. C'est quelqu'un de franchement grossier et de désagréable. Parce que il va vraiment dire tout ce qu'il pense.
J'ai noté ça, hein, je sais pas si ces adjectifs te conviennent. Violent, méchant, sans foi ni loi, sexiste. Ouais. Et j'ai des exemples, hein, ça vient pas juste de comme ça, sexiste. Quand on regarde Chucky 2, moi j'ai relevé, quand il écrit ce texte pour la maîtresse, va te faire foutre, salope. Oui. Je vais dire des grossièretés, hein. Je vais basculer en explicite à force, mais tant pis. Et surtout, je me souviendrai toujours par rapport à Kyle, il lui dit, c'est un nom masculin, mais en fait c'est une fille, c'est un personnage féminin. Ah, les bonnes femmes au volant. Enfin bref, tu te dis, oh, mais ça passerait tellement plus aujourd'hui ça.
Mais en fait, ça passe parce que c'est un antagoniste. Et en fait, on a le droit de le détester pour ça. Et c'est vrai qu'en revoyant le film, je me suis dit, ah mais quel salopard. Mais c'est aussi pour ça qu'on le déteste. Et que ça fonctionne bien, en fait, la balance en fait, entre lui et les autres personnages qui sont complètement innocents à côté.
J'anticipe une question, mais c'est pas grave. Tant qu'on parle du personnage de Chucky, est-ce que, pour prendre une référence de vieux, quelque part, Chucky, c'est pas ton JR de Dallas, le méchant qu'on adore détester? Ça la fait rire quand je dis ça, mais est-ce que c'est ça? Ou est-ce que aussi se mêle à ça une forme de tendresse, ou vraiment ça reste quelqu'un de détestable de toute façon, et il faut mieux garder de la distance?
On peut pas s'empêcher de finir par apprécier le personnage au bout de 8 films, ou alors on est complètement maso. Enfin, il arrive un moment où... Et je le trouve plus attachant que d'autres méchants de saga. Il me fait un peu penser à Freddy Krueger, qui a une forme d'humour très bizarre et sournois. C'est le fait qu'il fasse de l'humour qui le rend un peu attachant. Pareil, je mets des guillemets dans ce que je dis. Parce qu'il a le chic pour balancer les bonnes répliques au bon moment. Ça sonne bien, même si c'est extrêmement déplacé et désagréable.
Ah, c'est vraiment gratuit. Hein. Moi, je me souviendrai toujours, la première rencontre avec Chucky, je voyais même pas le personnage parler, c'était le fameux doigt d'honneur qui sort, je pense, dans tous les films. Et ça m'avait choqué, j'ai dit... Oh, une poupée qui fait un doigt d'honneur.
Non mais oui, il fait ça. Mais en plus, il adapte sa manière d'agresser les gens en fonction de leur profession, de leur sexe, enfin de leur genre plutôt. Et par exemple, la maîtresse, il va la frapper avec une règle, comme s'il allait la punir, comme si c'était un enfant. Et avec ce côté, on a été très vilaine.
Oui. Ce côté nostalgique d'une époque où on pouvait taper sur la règle avec les doigts, mais lui s'est poussé à l'extrême, évidemment, vu que c'est un tueur. Et c'est vrai que cette scène est extrêmement marquante.
Andy, ce n'est vraiment pas drôle.
Vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille, mademoiselle Kettwell.
Tu es en âge maintenant de retenir des scènes particulièrement peut-être traumatisantes, au moins marquantes. Est-ce que tu pourrais m'en citer quels sont les passages? Ça peut être des scènes, ça peut être des répliques d'ailleurs, ce que tu veux, concernant Chucky 2, qui t'ont marqué, ou Child's Play d'ailleurs, j'ai pas précisé que le film s'appelle en version originale Child's Play, jeu d'enfant, mais on l'a rebaptisé Chucky. Est-ce qu'il y a vraiment des passages qui t'ont profondément marqué?
Il y a deux passages que je trouve intéressants. Alors, c'est pas des scènes de violence spécifiques, c'est des scènes d'angoisse où, par exemple, Chucky justement vient d'agresser la maîtresse d'école d'Andy. Et déjà, il l'a suivie à l'école et évidemment, elle l'enferme dans la classe. Il se retrouve enfermé dans le placard, Chucky. Et donc Andy a la très très bonne idée de se barrer parce qu'il est très malin, ce gamin.
Courage, fuyons.
Non mais oui, il a complètement raison, il a un instinct de survie vraiment très très développé. Et il revient à la maison, évidemment il se fait taper sur les doigts, façon de parler, par sa famille d'accueil qui vient de recevoir un appel de l'école, et eux ils comprennent pas, parce que forcément pour eux Chucky est un traumatisme qui est irrationnel, il n'est pas vivant. Et donc il y a le père de famille qui oblige Andy à ouvrir la porte de la cave pour constater que la poupée qu'il avait jetée la veille du haut de l'escalier pour montrer qu'il est là. Et je me souvenais plus, là par exemple, en le regardant, s'il était là ou pas. Parce que je me suis dit, il n'a pas eu le temps de revenir, c'est pas possible, il n'a pas eu le temps de revenir. Et il va s'en rendre compte à ce moment-là. Et en fait, bah non. C'est le fameux c'est magique hein, dans les films.
Disparu.
C'est ça, et le tueur a toujours le chic de revenir au bon moment. Il finit par ouvrir la porte à la place d'Andy parce que Andy veut pas le faire, ce qui se comprend. Parce que tu sais au fond de lui qu'Andy, il se dit, mais ce loupio, il sera forcément là.
C'est clair, planqué dans un coin. Et tout ça pour susciter un terme qui va te parler, hein, Morgane, évidemment, le jump scare, c'est-à-dire de vraiment nous faire sursauter sur notre fauteuil.
Bah, c'est ça, et là encore, on est encore sur une scène en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il ouvre. Et là, dépit, il a réussi à revenir, quoi. Et il est là. Et encore une fois, on ne croit pas cet enfant. Et c'est un film très frustrant parce que en fait, on part du principe que t'es un enfant, donc en fait, si t'as peur, c'est de ta faute. Et il faut vaincre sa peur et devenir des adultes. Être adulte, c'est arrêter de croire à des choses irrationnelles. Et c'est ce qui fait que la plupart des personnes dans les films d'horreur meurent. En fait, c'est parce que ils n'arrivent pas à se détacher en fait de la réalité et de la part de rationalité.
C'est intéressant de souligner en effet la place du mensonge parce que en fait il n'arrive pas, de par son histoire, de par son background, de par son bagage, Andy, à se faire une place à l'école où il est harcelé, on lui balance des boulettes dans la tronche, on lui fait des pichenettes, on le croit pas dans ce qu'il dit. Il a une mère, on sait qu'elle est dans un HP, donc tout ça contribue à le mettre en marge de la société.
Surtout qu'en plus, Andy, ce n'est plus un enfant. Bah, il a encore quelques pulsions, c'est-à-dire que quand il voit sa chambre, qui est la chambre idéale de la famille d'accueil, c'est vraiment, on sent que c'est une famille aimante qui est là pour mettre en confiance les enfants. Il y a zéro ambiguïté là-dessus. Et on sent que là, il pourrait revenir à une certaine normalité. Et sauf que, bah ouais, il y a un Tommy, enfin, le brave gars qui est dans le placard. Et là, évidemment, ça le rappelle à la réalité en se disant « Ah merde, c'est pas possible, je peux pas me comporter comme avant. »
Exact. Et t'as vu son premier réflexe, d'ailleurs, quand il récupère ce Tommy ?
Vérifier les piles.
Mais oui, toujours.
Et c'est là qu'on voit une vraie progression du personnage par rapport au premier film. C'est que là, le gamin, en fait, bah oui, c'est un adulte. Parce que le premier truc qu'il fait, c'est d'abord, en fait, vérifier qu'il a pas affaire à la mauvaise poupée, en vérifiant les piles. Et c'est là qu'on voit que Chucky a quand même un petit coup d'avance. C'est que, bah ouais, au début du film, on les voit, ils ont inséré les piles dans son corps. Et il se débarrasse très rapidement du Tommy une fois qu'il a trouvé la maison. Et c'est la deuxième scène que je voulais souligner, c'est la fameuse scène où il a enterré le corps sous la balançoire. Et au fur et à mesure, il y a deux scènes dans le film. Une première où ils commencent à effleurer avec leur basket la terre toute fraîche, tout fraîchement retournée. Et évidemment, la seconde scène, qui est la scène de trop, où Kyle va finir par croire Andy en se rendant compte que le Tommy est enterré dans le jardin.
Elle, en effet, à force de faire de la balançoire, elle déterre peu à peu. C'est très simple, mais j'ai trouvé ça terriblement intelligent, de finalement déblayer le terrain jusqu'à découvrir ce Tommy et d'aller vérifier que finalement l'autre Tommy qui avait été balancé à la poubelle, par Kyle, la fille donc...
Ouais. C'était pas un Tommy.
C'était pas un Tommy, exact. Je vois très bien. Et cette montée en tension, d'ailleurs, fonctionne super bien.
C'est ce qui fait toute l'efficacité du film, en fait. Et globalement, des deux premiers films, je trouve, c'est que justement, ils sont vraiment dans un délire de... Certes, c'est un personnage qui fait de l'humour, etc. Mais les films sont quand même montés sur ce côté. On fait monter la peur petit à petit avec des petites choses. On voit pas tout le temps la poupée. Et on la voit bouger sur des scènes très marquantes. Mais à côté de ça, on va nous faire peur avec le vide des absences, en fait. Et c'est génial.
Andy, j'attends que tu m'expliques.
Chucky m'a suivi à l'école. Il a encore essayé de m'avoir, alors il a fallu que je m'échappe.
Es-tu au courant de ce qui s'est passé ?
Sa maîtresse a appelé. Elle a dit qu'elle était obligée de le garder en retenue. Il aurait écrit des obscénités sur son devoir.
C'est Chucky qui a écrit ça.
Bon, très bien, viens avec moi. On va régler ça définitivement. Il n'est pas question que je tolère des bêtises pareilles. Est-ce que tu as compris ? Ouvre la porte.
Oh, Phil !
Johan, je t'en prie. Ouvre la porte. Ouvre ! Maintenant, regarde en bas et dis-moi ce que tu vois.
C'est Chucky, mais il n'était pas là tout à l'heure.
Son véritable nom, c'est Tommy. Et tu sais bien qu'il est ici depuis hier soir.
Tu sors de ce visionnage, de ce Chucky 2, donc tu me disais que tu avais 15-16 ans. La suite se goupille comment ? Est-ce qu'on a soif de films d'horreur ? Est-ce qu'on a faim de films d'horreur ? Bon, je suppose que tu as vu la suite de la saga, mais ça a été quoi la suite ? Est-ce que c'était une grande ouverture vers le cinéma de genre et les films d'horreur au sens le plus large du terme ? Ou est-ce qu'on reste d'abord dans la saga Chucky ?
Alors non, ça a été une ouverture vers un nouveau monde, parce que clairement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé cette saga, ces 4-5 premiers films, et en fait, je me suis dit, j'ai réussi à vaincre ce qui me faisait le plus peur au monde, Donc je peux tout regarder. Techniquement, je peux tout regarder. Alors après, j'ai découvert plus tard quelques nuances, hein, des préférences, entre autres. Mais grosso modo, là, ça m'a armée, en fait, pour me sentir prête à regarder d'autres films, d'autres sagas, et notamment des sagas d'anthologie qui étaient considérées comme les plus flippantes, etc. Il y avait des films que j'avais jamais vus parce que, justement, ils étaient considérés comme les plus horribles. Genre, par exemple, L'Exorciste.
Oui.
Vendredi 13, Halloween, la saga des griffes de la nuit, enfin tous ces films-là en fait qui sont des films qui ont marqué l'histoire du cinéma de genre et qui sont devenus des séries de plus ou moins bonne qualité, mais...
C'est clair que plus on tirait sur la longueur, hein, plus on étirait à l'excès ces franchises-là, plus c'était compliqué de rester pertinent en fait.
Bah c'est ça, il y en a qui vieillissent bien, il y en a d'autres qui vieillissent mal. Moi ce que j'aime par exemple avec les Chucky, c'est qu'ils ont su garder les mêmes scénaristes, et le scénariste a fini par prendre le relais au niveau de la réelle. Et ça se sent, parce qu'il y a un amour du personnage qui est présent et une cohérence. Alors qu'on peut, on le retrouve pas forcément dans toutes les grandes sagas, mais ouais, ça m'a ouvert vers d'autres grandes sagas. Les Hellraiser, tous ces films-là qui me faisaient peur dans le vidéoclub, parce qu'ils étaient au fond avec des jaquettes horribles.
Oui, bien noires, bien sombres.
C'est ça, et c'est vrai que... À partir de ce moment-là, j'ai vraiment été chercher les films de moi-même. J'ai pas attendu qu'ils me tombent dans le bec.
Et c'est pas ce qui manquait, hein. Je voudrais juste recontextualiser de façon historique, parce que toi et moi, je suis un peu plus âgé, j'ai 3 ans de plus que toi, mais on a grandi avec les mêmes choses. Il y a eu bien sûr cette saga qui a tout relancé au milieu des années 90, d'un certain Wes Craven, Scream. Donc c'est pas ce qui manquait en fait. Il y avait les Scream, il y avait Souviens-toi l'été dernier, il y avait The Faculty, il y avait, je te dis vraiment de tête. Hein.
Que des classiques que j'adore. Et c'est vrai que Scream, je l'ai découvert tardivement parce que je les ai découverts à la fac. Je les ai d'autant plus appréciés en ayant fait mes armes avec plein d'autres films, parce que c'est une saga hommage à tous ces films-là, en fait, et aux codes qui sont établis au fur et à mesure des années et des diffusions de films d'horreur. Et c'est un réel plaisir, en fait. Une fois qu'on a les codes et que ça nous fait pas peur, en fait, d'avoir cette espèce de catharsis où vraiment on aime se faire peur. Parce que, par contre, si on n'aime pas se faire peur, il faut pas, faut arrêter. Enfin, il faut arrêter le massacre.
Ne soyez pas masochistes, les amis.
Mais c'est ça, parce que au fur et à mesure des années, moi, j'essaye de convertir petit à petit les personnes qui n'auraient pas vu ces films-là et qui auraient potentiellement une certaine appétence pour ces films, de leur montrer, en fait, pour le plaisir du partage, parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est le plaisir de transmettre d'autres films à d'autres personnes. Mais par contre, en effet, moi, j'ai des amis ou même de la famille qui me disent « ça me met mal à l'aise d'avoir peur ». Il ne faut pas imposer des films si c'est pour qu'après, se sentir mal. Il faut d'abord que ça reste un plaisir.
Tu m'évoquais aussi, pour rester dans le souci du partage, le fait que tu aies rencontré ta pote de film d'horreur, quoi. Comment ça s'est passé, cette connexion-là de oh, « on va se faire des soirées ensemble à se faire peur devant des films de genre ».
À la base, c'était la meilleure amie d'un ami de fac. En gros, elle est arrivée, elle, en troisième année à l'université. Et on s'est vraiment... Elle s'est installée, du coup, à Rennes. On était à Rennes à ce moment-là. Et on s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes choses au niveau du cinéma. Elle adorait les comédies musicales. Elle adorait les films d'horreur. Et on s'est dit, hey, est-ce que c'est pas l'occasion de se faire quelques nuits blanches en mangeant n'importe quoi et en regardant plein de films d'horreur? Et du coup, c'est à ce moment-là où on s'est vraiment créé des rituels de visionnage. Je me rappelle d'un week-end avec elle, je lui avais dit « ne viens pas, j'ai la grippe, je vais te contaminer, on va remettre notre week-end à plus tard ». Elle m'a dit « non, je viens ». Elle m'a fait un grog horrible, hein, désolé.
Tu t'en souviens encore.
Et on a regardé les Freddy, les griffes de la nuit, du 3 au 7, en une seule nuit.
Eh ben, difficile de dormir en même temps après avoir regardé tout ça.
À cette époque-là, en fait, on a vraiment donc cette espèce de comment dire, de bromance, hein, comme on appelle ça, qui s'est créée entre nous. Et ce plaisir d'avoir trouvé quelqu'un avec un amour tout à fait sincère pour ces films-là, pour le partage, parce qu'en fait, c'est des films, c'est d'autant plus agréable d'avoir des gens avec qui échanger pour débriefer de ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes manières d'interpréter les choses. Par exemple, elle, elle est plus slasher, moi je suis plus fantastique. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir les différentes perceptions. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, bah ouais, on avait commencé à se faire toutes ces soirées de binge-watching, puisque le terme n'existait pas à l'époque. Hein,
mais ouais, de marathon, on disait plus, je pense.
Exactement.
Tu l'as revu combien de fois, Chucky 2, Chucky la poupée de sang?
Ouais, une bonne dizaine, douzaine de fois, ça dépend. À chaque fois, c'était un visionnage de partage. Parce que moi, je l'avais vu une première fois, bah, déjà, c'était un partage aussi, puisque c'était avec mon petit frère. Et je crois pas l'avoir revu seul, à part hier pour préparer l'émission. Sinon, c'était toujours pour partager un bon moment avec soit des personnes qu'il avait déjà vues, soit pour le montrer à quelqu'un qui se sentait prêt à le voir.
Très bien. Quel regard tu portes aujourd'hui dans les années 2020? Est-ce que par certains aspects tu estimes qu'il a vieilli ou est-ce qu'il tient encore la route?
Moi je trouve qu'il tient complètement la route et c'est ce qui fait que c'est toujours un plaisir de le regarder en 2021 parce qu'en fait, alors les effets spéciaux ont un peu vieilli mais c'est ce qui fait vraiment tout le charme du film, c'est que c'est pas de la 3D, c'est du mécanique, de l'animatronique, du stop motion, et en fait il y a quelque chose, c'est aussi le charme de ces films des années 80, c'est que c'est des films à texture en fait. La poupée en fait c'est ce qui fait peur aussi, c'est que on a la sensation qu'elle est réelle, elle a vraiment, d'ailleurs on la voit quand Andy la prend, il fait quasiment sa taille, il y a quelque chose de très réaliste, alors que ce que je reproche dans certains films qui veulent s'approprier les codes de la poupée qui fait peur maintenant, c'est que souvent, par facilité je pense de budget, bah en fait on va plutôt faire de la 3D, et je trouve que ça a moins de charme, en tout cas moins d'impact de voir de la 3D attaquer que du stop motion, d'ailleurs une des dernières adaptations de Chucky.
Tu veux parler de celle qui fait beaucoup polémique là,
Annabelle?
Justement, j'allais te parler des successeurs. J'allais parler tout simplement juste du 2 au 8, et puis d'éventuellement la succession. Quel regard tu portes sur les suites, le remake qui est sorti à 2 ans de Chucky, et bien sûr des adaptations telles qu'Annabelle? T'as pensé à la même chose que moi. On est connectés, toi et moi.
Bah, c'est vrai que il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées dans les successions, mais il n'y a pas toujours des bonnes exécutions. C'est-à-dire que moi, par exemple, le tout dernier, justement, Chucky, le
oui,
8.
Donc Child's Play, la poupée du mal.
C'est ça, qui est donc un remake. Oui, c'est ça, un remake, parce que du coup, on part du principe que les autres films n'ont pas existé, et c'est une nouvelle version du film, et une nouvelle version de Chucky, plus ou moins. Bah, du coup, ça marche un peu moins bien, je trouve, par rapport aux effets spéciaux. Mais en même temps, j'ai bien aimé, parce que j'ai aimé le détournement un peu Google Home de la poupée. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais en fait, c'est pas respecter le personnage de base.
Pour simplifier, c'est une poupée connectée en fait, hein, quand tu parles de poupée Google Home. C'est une poupée connectée en fait. C'est Alexa quoi.
Ah bah c'est ça, c'est vraiment elle est connectée en Bluetooth à tous les objets de la maison. Et donc évidemment, ça en fait comme n'importe quelle histoire de science-fiction où l'objet connecté va déconner. Ça part en cacahuète, évidemment. Mais en même temps, il y a des choses malignes dans le film. Par exemple, il y a une scène où les gamins sont en train de regarder justement Massacre à la tronçonneuse, je crois, un truc comme ça. La poupée par apprentissage, puisqu'en fait, elle a aucun pare-feu d'apprentissage. Elle va vouloir faire rire son propriétaire, et en voulant le faire rire, va reproduire ce qui se passe dans Massacre à la tronçonneuse. C'est pas très drôle dans la vraie vie.
Pas vraiment, non. Plutôt risqué.
Il y a des petites choses comme ça assez malines, mais voilà, qui sont plus pour moi de l'ordre de la science-fiction que du fantastique.
Pour toi, on sort vraiment du genre, quoi. C'est...
Bah, ça reste de l'horreur, mais c'est une nouvelle interprétation du mythe de Chucky qui a été construit au fur et à mesure des années. Du coup, c'est différent. Ça perd de son charme initial pour se créer autre chose. Mais c'est pas ce que j'en attendais, même si j'étais très contente de le voir. Faut pas me juger, hein. Mes copines m'ont emmené le voir pour mon enterrement de vie de jeune fille.
Bah, c'est une drôle de façon de marquer le coup, tiens.
C'était la pré-soirée d'enterrement de vie de jeune fille, donc c'était en mode plutôt chill, en petit comité, et elles m'ont emmené voir ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, elles me connaissent bien.
Ça marche. Et juste rapidement, tu me parlais d'Annabelle, du coup. Est-ce que des successeurs de type Annabelle, ou d'autres peut-être que tu as en tête, sont à la hauteur, ou pas plus que ça
Quand j'ai vu Conjuring, l'introduction se fait sur Annabelle. Et comme tout le monde a eu la trouille devant cette introduction, parce qu'elle est extrêmement efficace. Et cette poupée est absolument ignoble. Dans le principe, je trouvais que l'idée était très intéressante, en fait, de développer un film à partir de ce personnage-là. Et j'ai trouvé que l'exécution, par contre, ne convenait pas du tout avec ce qui fait peur, personnellement. Moi, en tout cas, tout ce qui me faisait peur dans Chucky, je ne les ai pas du tout retrouvés dans Annabelle, parce que moi, ce qui me fait peur dans Chucky, c'est que la poupée brave gars, elle a une bonne tête à la base. Oui. Elle est vraiment mignonne et c'est un buddy, c'est le jouet préféré des enfants.
Le meilleur copain.
Mais c'est ça, et on y croit au buddy qui fait du bricolage, le dessin animé buddy, etc. T'imagines pas un dessin animé Annabelle ? C'est pas possible. Et déjà, dans le film, de mémoire, le mari offre à sa femme enceinte, qui certes collectionne les poupées, offre cette chose ignoble de la taille d'un enfant de 7 ans.
C'est vrai qu'il tient sur le dos, quoi. Il tient sur les épaules.
Elle est grande, elle est en mauvais état, elle est verdâtre, elle fait peur. Et n'importe qui, même collectionneur, se rend compte qu'il y a un problème avec cette poupée. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais pas que mon mari m'offre ce truc pour le mettre dans notre salon, même si j'adore les films d'horreur. Ça me terrifierait. Et du coup, déjà, première incohérence pour moi là-dessus. Et ensuite, sur la base... Annabelle est possédée aussi, comme Chucky.
Oui, on n'a pas parlé, il est vraiment obsédé par le rite vaudou, hein, par le satanisme, hein, par le fait de, voilà, en faisant des incantations, Chucky, de pouvoir déplacer son âme chez Andy.
C'est son objectif principal et seul objectif, c'est de ne pas rester dans le corps de la poupée, parce que, tu comprends, c'est un vrai homme, donc vrai homme nécessite vrai corps.
c'est vraiment binaire comme façon de penser, c'est terrible, c'est vraiment basique, quoi.
Non mais c'est ça, et en fait finalement le fait de se retrouver dans le corps d'Andy, c'est à proprement parler se recréer une seconde jeunesse, puisque c'est un enfant, et du coup de potentiellement doubler son espérance de vie, et de faire des choses d'autant plus horribles, encore plus longtemps que ce qu'il aurait pu faire avec sa vie d'adulte. J'étais très choquée d'ailleurs, en regardant avant l'émission, de me rendre compte que Chucky a 32 ans.
Waouh, ok. Et le fait de, ouais, c'est un peu malsain, du coup, ça change le rapport de ce désir-là d'à tout prix vouloir intégrer le corps d'un enfant. C'est très étrange. Et,
ah mais... Oui.
C'est malsain même.
Oui, oui, complètement.
On n'a pas parlé parce qu'on tend vers la fin, du rire surtout de Chucky. C'est marrant que tu m'en aies pas parlé, parce que est-ce que ça a été une forme de truc réminiscent qui revient parfois et te hanter aussi ?
Non, ça va. Moi, maintenant, avec les années, ça ne revient pas me hanter. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est quelque chose qui ne m'avait pas traumatisé, le rire, parce qu'en fait, c'était davantage le geste de violence que le détachement avec lequel, justement, il va se taper des barres en faisant du mal aux gens qui m'avait fait peur. Et en fait, maintenant, avec le recul nécessaire, je rigole un peu en même temps que lui, parce que justement, il est...
Il est cruel.
Ouais, c'est ça. Et il prend plaisir à ça, et il rigole. Et en fait, c'est pas un rire... le rire chez les tueurs en série, c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement. Parce que souvent, ils sont... C'est vrai que c'est flippant d'avoir cette espèce de personne complètement désincarnée. Et c'est ce qui fait peur, c'est ce côté déshumanisant. Alors que Chucky est profondément humain, voire trop, mais dans toutes ses dérives, dans tout ce qu'il y a de pire.
Il exulte, en fait.
C'est ça.
Juste pour ceux que ça intéresse, de Chucky 1 à Chucky 8, tu peux les citer de tête ou je le fais ? Comme tu veux.
Je les ai sous les yeux, donc
parfait.
Tu je peux triche. Les...
Juste les citer, hein, pour ceux qui veulent s'y plonger.
Ouais, on a Jeu d'enfant donc de 88, Chucky la poupée de sang en 90. Alors, Chucky 3, il n'a pas de sous-titre celui-ci.
Oui, bizarre, ouais.
91, la fiancée de Chucky en 98, le fils de Chucky en 2004, la malédiction de Chucky en 2013, le retour de Chucky en 2017 et Child's Play, la poupée de sang, la poupée du mal, pardon, en 2019. Et on a quand même un très 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 gros événement cette année. En 2021, il y a la série qui sort en octobre.
Oui, c'est vrai. Elle n'est pas destinée à Netflix, j'en doute.
Je sais plus, je ne sais plus sur quelle plateforme en tout cas elle est destinée, mais avec bah justement ma buddy de films d'horreur, nous l'attendons de pied ferme.
Ah bah écoute, c'est vraiment, c'est bon à savoir, hein. En effet elle est attendue, et ça, bah oui, en plus par Don Mancini, hein, créé par Don Mancini, l'auteur de base qui a travaillé sur les films, donc ça promet, en espérant que l'univers soit respecté.
C'est lui qui a en tout cas travaillé sur les 7 premier film, il n'a pas travaillé, enfin je crois pas qu'il ait travaillé sur le remake, mais en tout cas la série du coup devrait revenir un peu plus au bled, si je puis dire.
Revenir au village, retourne back to basic.
Exactement.
Comment tu résumerais en une phrase ta relation avec le film Chucky ? Ce film, il représente quoi pour toi ?
Bah, c'est mon buddy, c'est mon ami pour la vie. Tout simplement parce que forcément ça partait sur une mauvaise base et finalement on a réussi à s'apprivoiser au fur et à mesure des années, donc bah oui, c'est en une seule phrase, c'est mon buddy.
C'est vrai,
c'est une de mes sagas d'horreur préférées, ça m'a créé des amitiés, donc forcément j'ai pas de, à part cette première entrée fracassante avec le milieu du cinéma de genre, j'ai rien à lui reprocher.
Ouais, en gros, ce film est un compagnon précieux vers le cinéma de genre.
Oui, quelque chose dans le style, ouais. Mmh. Ouais, complètement.
Je note, c'est enregistré, je m'en souviendrai. En tout cas, on aura bien compris tout l'amour que tu as pour le film. Chucky, la poupée de sang, ou Chucky 2, c'est plus rapide, Child's Play 2. Le film est disponible sur Netflix. Alors, c'est très bizarre, hein. Je vais pas vous énumérer toutes les plateformes, hein, où vous pouvez les trouver, c'est en DVD et Blu-ray. Mais ne vous trompez pas. Chucky 2 est sur Netflix, Chucky 1 est sur Amazon. Voilà. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous avec ça. En tout cas, j'ai passé un super moment. Donc merci Morgane de me l'avoir poussé à regarder finalement, parce qu'il est vraiment super et j'adore. Enfin, film court et efficace. Voilà, pour les plus fidèles auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission, vous savez, comme j'ai souffert ces derniers mois avec des films de plus de 3 heures, j'en pouvais plus. Donc, j'en pouvais plus. Voilà, le film s'appelle Chucky 2. Alors, on passe à toute autre chose. Tes recommandations, ma chère Morgane, 2 s'il te plaît. Une première recommandation de film pour nos auditrices et auditeurs.
Alors, une première recommandation qui est liée justement à la découverte au niveau de l'adolescence dont on a pu parler dans l'émission, avec le projet Blair Witch, qui est bien entendu un incontournable de l'horreur des années, bah, je crois que c'est 99, où c'est l'histoire de 3 étudiants qui vont dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland, pour faire un documentaire sur une légende locale qui est donc la sorcière de Blair. Sauf qu'un an plus tard, on retrouve la fameuse bande vidéo qui aurait dû servir à leur documentaire, sauf qu'eux sont toujours portés disparus. Et ce film... pareil, m'a beaucoup choquée à l'époque parce que je n'ai pas compris ce que j'ai regardé. J'ai regardé, ouais, ce truc, je l'avais loué au Vidéoclub, hein, comme beaucoup de ces films, et j'ai eu la sensation, surtout dans le packaging, de regarder la cassette de quelqu'un, vraiment, qu'on aurait retrouvé, en fait, simplement. Alors que pourtant, on a beau savoir que c'est du cinéma et que beaucoup de gens en ont parlé, etc. Mais sur le moment, ça m'a vraiment foutu la trouille. Et parce qu'il laisse beaucoup de questions sans réponse.
C'est le fameux film qui a consacré le found footage, donc cette vidéo retrouvée, qui a consacré ce genre-là dans le film d'horreur, qui a été repris quelques années plus tard, et je sais que tu vas trouver, grâce à un film qui se déroule notamment dans la chambre d'un enfant.
Ah, Paranormal Activity.
Très bien, voilà, c'est ça.
je pensais à Rec aussi, qui s'en est plutôt bien sorti avec ce style-là, parce que c'est un style un peu gerbant, hein, parce que ça, ouais, bouge beaucoup.
La caméra tremble beaucoup, il faut supporter. Hein. Ça, c'est clair que ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, en effet.
Tout à fait.
Donc le projet Blair Witch, ça c'est le 1, celui dont tu as parlé. Il y a eu Blair Witch 2, le livre des ombres, ça me fait penser à Charmed.
Qui n'est pas très bien, qui n'est pas très bien du tout.
Bon, bah d'accord, celui-là, on l'évite. Et sinon, on vous recommande le projet Blair Witch, qui est disponible sur Microsoft Store, sur Canal VOD, ou encore Rakuten. Et ta seconde recommandation, Morgane ?
Et ma seconde recommandation, en fait, elle va être un peu plus légère, façon de parler, puisque c'est La Petite Boutique des Horreurs, donc de Frank Oz, un film de 86. J'adore ce film, perso. Ça se passe dans un quartier un peu pourri de New York, où on suit donc le propriétaire d'une boutique de fleurs, qui décide de fermer son magasin parce que c'est la misère, comme dans tout le quartier. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, il y a son employé, donc Seymour, qui va trouver sur un... chez un vendeur chinois, hein, c'est un peu le syndrome Gremlins, une plante qui va mettre en exposition en fait, dans la vitrine, et sauf que cette plante va absolument fasciner toutes les personnes qui vont passer devant la vitrine, et ça va redonner un certain engouement à la boutique, redonner pareil une seconde jeunesse, sauf qu'évidemment, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et ce film-là, pourquoi je l'ai choisi ? Bah oui, c'est simplement parce que vous aimez les comédies musicales, vous aimez l'horreur, bah en fait il y a les deux dans ce film. Les chansons sont incroyables et d'excellente facture. Simplement pour le plaisir de retrouver aussi. Ah attends, j'ai oublié son nom.
Jack Nicholson ?
Non, pas du tout. Qui joue dans Chérie, j'ai rétréci les gosses.
Ah, Rick Moranis ?
Rick Moranis, tout à fait, qui a le rôle principal donc de Seymour, le petit employé timide amoureux de sa collègue.
Et il a fait Chérie, j'ai rétréci les gosses, bien sûr, Chérie, j'ai agrandi le bébé au début des années 90.
Et il chante franchement bien, mais vraiment, en plus, les chansons sont un petit peu... Bah, c'est très Broadway, hein, mais il y a beaucoup de gospel aussi, avec notamment des narratrices choristes qui vont faire suivre un peu le film. C'est trop bien. Enfin, moi, personnellement, j'adore ce film. Et surtout, il y a une déchéance d'animatronics. Parce que, évidemment, cette fameuse plante, ça s'appelle La Petite Boutique des Horreurs. Il y a un moment, elle va montrer un petit peu l'envers du décor, et elle sera animée avec de l'animatronics. Et du coup, si vous aimez les animatronics façon Frank Oz, bah tout le plaisir est pour vous.
Oh bah c'est noté. Je me trompe pas, tu parles bien du film de 1960.
De
86. Il y a Jack Nicholson dedans. Ah, il y a deux versions.
Oui, Rick Moranis, du coup, n'a pas joué dans le film des années 60. Par contre, en effet, je crois qu'il y a Jack Nicholson dans la version des années 60. Il a joué dans la version de 86, qui a gagné d'ailleurs plein de prix au niveau des effets spéciaux et aussi des prix par rapport aux chansons.
Au casting, Rick Moranis, Steve Martin. Et le film est disponible sur Apple TV, Filmo TV et la cinémathèque des réalisateurs. D'ailleurs, Morgane, avant de se quitter, j'aimerais beaucoup que tu parles de ce podcast dans lequel je t'ai découvert et qui s'appelle Allo Central. Pour nos auditrices et nos auditeurs, qu'est-ce que c'est Allo Central ?
Alors, Allo Central donc, est une émission de pop culture qui est dédiée au coup de cœur de toute personne qui passe dans notre émission. Vraiment, on est là que pour parler des choses qu'on aime, parce que pour parler des choses qu'on n'aime pas, il y a le reste d'Internet.
C'est clair, c'est pas ce qui manque.
Bah c'est ça, donc vraiment, là, on va aborder tous les sujets, c'est-à-dire films, séries, bouquins, sorties, quand on le peut, hein, en ce moment, c'est un petit peu limité, mais spectacles et autres, vraiment, tout sujet, en fait, qui mérite pour nous d'être partagé, en fait, va être chroniqué dans l'émission, et en ce moment, c'est une fois par mois sur Ocha, via, notre association Club Katsu.
Allo Central, vraiment une super émission et comme nous en fait tu incarnes finalement toujours ce souci de montrer que la culture est essentielle. Je te remercie beaucoup Morgane d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le film qui a changé ma vie.
Tout le plaisir est pour moi puisque pour une fois j'ai réussi à rendre hommage à ce film de manière à peu près correcte parce que c'est très très difficile de parler de quelque chose qu'on aime profondément.
C'était un vrai plaisir en tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi.
À très bientôt.
À bientôt.
Non, l'épisode n'est pas terminé, on ne coupe pas son appli préférée puisque comme promis en début d'émission, je continue ma tournée de remerciements en lisant l'un de vos messages laissés cette fois sur Podcast Addict, un message court de Nimbouda qui m'écrit « Podcast au top, souvent pertinent ». Intéressant et original car il propose des parcours de vie racontés par des personnes qui apprécient un film devenu important à leurs yeux. Merci beaucoup pour ce message qui me fait très plaisir, Nimbouda. Ça fait du bien de voir que tout le travail effectué sur cette émission vous plaît réellement. Laissez-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict, et c'est peut-être votre message que je lirai ici prochainement. Le film qui a changé ma vie, épisode 21, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez d'entendre ainsi que les 20 précédents sur toutes vos plateformes streaming préférées. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.